Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Anne Sylvestre, frangine. Radio Libertaire 89.4 sur la FM en Île-de-France et dans le monde via Internet. La radio sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Vous êtes bien dans Remue-Ménage féministe, comme tous les mardis, de 12h30 à 14h30. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bonjour Elisabeth.
Et bonjour à toutes et à tous, et bonjour Catherine. Nous sommes donc le mardi 22 avril 2025, et au menu de l'émission Remue-Ménage féministe aujourd'hui, nous allons tout d'abord vous parler du procès du médecin chirurgien Joël Le Squarnec, qui a agressé sexuellement au moins 299 enfants et adolescents, bien plus dans la réalité, car on ne connaît pas toutes les identités, donc les personnes n'ont pas pu porter plainte. Voilà. Ensuite, nous vous lirons un communiqué publié par 50-50 Magazine à l'occasion des 9 ans de la loi de 2016 pénalisant les clients de la prostitution et soutenant les personnes prostituées, et au passage abolissant le délai de racolage, le délit de racolage qui avait été institué par Sarkozy en 2003, si ma mémoire est bonne. Vous entendrez ensuite l'interview des animatrices du podcast La Vie en Rouge. Ce sont des survivantes de la prostitution qui vont vous parler de leur expérience. Et puis, nous aurons un certain nombre d'informations militantes. Nous reprendrons le communiqué de presse de à propos de Le Square Neck parce que c'est important et c'est l'actualité. Et bien d'autres nouvelles et notamment plusieurs expositions de peintresses femmes à Paris. À tout de suite. Ah oui, non, pas tout. Je continue sur le communiqué. Un bug. C'est le premier, c'est peut-être pas le dernier. On va voir. C'est un communiqué de presse signé par de nombreuses organisations qui appellent à manifester aujourd'hui même à partir de midi. Donc c'est l'heure là, il faut y aller. C'est devant le tribunal judiciaire de Vannes et devant le Conseil national de l'Ordre des médecins à Paris. À Paris, c'est 4 rue Léon Jost dans le 17e arrondissement. Que dit ce communiqué ? Dans le cadre du procès de Joël Le Square Neck, la Cour criminelle départementale du Morbihan va entendre cette semaine le témoignage d'un psychiatre, Thierry Bonvalot. Ce dernier, président de la commission médicale de l'établissement de l'hôpital de Quimperlé, avait appris la condamnation de Le Square Neck pour détention d'images pédopornographiques. Il avait trouvé alarmant certains de ses comportements. En juin 2006, il y a donc près de 20 ans, il avait alerté par courrier la direction de l'hôpital en indiquant avoir des doutes sur la capacité de celui-ci à garder toute sa sérénité au contact de jeunes enfants. La direction de l'établissement a fait suivre à la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et à l'Ordre des médecins du Finistère. Toutes ces institutions, jusqu'à leur plus haut niveau, ont ignoré les différentes alertes à ce sujet pendant de nombreuses années. Chacun de nous a pourtant un rôle fondamental à jouer en refusant ces silences, complices et coupables. Nous savons que pour enrayer le cycle des violences sexuelles, il faut déjà les voir, les nommer, les entendre. Chacun, chacune de nous doit prendre ses responsabilités en soutenant les personnes victimes d'une part, en leur disant « je te crois », mais aussi en faisant savoir les agissements des coupables, de ne pas les invisibiliser. La loi est claire. Toute personne inquiète pour la sécurité d'une personne mineure a l'obligation de le signaler au service compétent. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. Si cette responsabilité de mettre fin au silence est l'affaire de toutes et de tous, plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité pour protéger les victimes. Or, l'affaire Le Square Neck montre bien la déresponsabilisation coupable de la plupart des institutions. Pendant que les gouvernements mènent des campagnes de communication autour de la protection de l'enfance, des actes posés par les agresseurs entravent cette libération de la parole. Par exemple, en décembre 2023, Nathalie Mathieu et Édouard Durand, coprésidents de la Civis, en ont été évincés et remplacés par des personnes ayant pris ouvertement position contre l'obligation de signalement par les médecins des maltraitances faites aux enfants. Ces gouvernements successifs mènent dans le même temps une campagne de restriction budgétaire en réduisant toujours les moyens humains et financiers des services publics, hôpitaux, services sociaux, etc., et dans le monde associatif. La justice est également coupable. Elle n'a pas empêché Le Square Neck d'exercer. Aujourd'hui, cette même justice maltraite les victimes par manque de moyens nécessaires à leur accompagnement. Le ministère de la Santé a été informé de la situation dès 2006, mais il n'a rien fait d'autre que de s'en remettre à l'Ordre des médecins. Et l'Ordre des médecins lui-même, je vous rappelle, créé par Pétain dans les années 40, organisme privé, son rôle est soi-disant de veiller au respect par les praticiens des règles de déontologie. L'Ordre des médecins s'est opposé par la voix de sa vice-présidence à la préconisation de la Civis de clarifier l'obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins. L'Ordre des médecins permet donc de maintenir en place un pouvoir médical excessif et abusif, et il l'a fait en couvrant Joël Le Square Neck pendant des années. Nous appelons donc, voilà nos revendications, donner dès à présent des moyens financiers et humains pour l'accompagnement des victimes, pour la formation de tous les professionnels au contact de mineurs, avec un investissement annuel d'environ 2,6 milliards d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre dès à présent les 82 propositions du rapport de la Civis de 2023, rapport que vous pouvez trouver sur le site civis.fr. Nous appelons l'État à retirer tout pouvoir disciplinaire de l'Ordre des médecins car sa juridiction d'exception est bien plus nocive qu'utile. et nous demandons d'augmenter les moyens de la justice de droit commun pour traiter ces affaires aux conséquences individuelles et collectives colossales. Nous demandons d'inclure les violences subies par les patients, adultes et enfants, dans le grand plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles lancé par le ministère de la Santé en janvier 2025, dont elles sont actuellement exclues. Nous appelons à faire le procès des institutions qui, par leur inaction et leur silence, sont complices et coupables de la violence. Levons-nous et parlons encore et encore jusqu'à ce que nous soyons entendus. Rassemblement donc aujourd'hui à partir de midi devant le tribunal judiciaire de Vannes et devant le Conseil national de l'Ordre des médecins à Paris, dans le 17e arrondissement, 4 rue Léon Jost.
Maintenant, donc, le communiqué de 50-50 magazine. Prostitution, 9 ans après la loi de 2016. Le 13 avril 2016, la France adoptait une loi historique visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. 9 ans après, nous, association de terrain, membre du collectif FACTS, alertons une fois de plus les pouvoirs publics sur le déficit d'application persistant de cette loi et les dérives créées par le durcissement de la politique migratoire en France. Là où elle est appliquée intégralement, la loi a prouvé son efficacité. Mais alors que les réseaux prospèrent, nous lançons un nouveau cri d'alarme aux autorités. Les parcours de sortie de la prostitution sont entravés localement par des politiques migratoires iniques. De plus en plus de mineurs et mineures se retrouvent dans des situations d'exploitation. La pénalisation des clients prostitueurs demeure largement insuffisante. Or, il n'y a pas d'autre alternative pour lutter contre les violences sexuelles et pour prétendre à une société d'égalité entre les femmes et les hommes qu'une mise en œuvre complète et homogène de la loi de 2016 sur l'ensemble du territoire. L'État a la responsabilité de protéger et de porter assistance aux victimes du système prostitutionnel, en très large majorité des femmes et des enfants. Dans un contexte de mutation du système prostitutionnel à l'ère du numérique, de défaillance systémique de la protection de l'enfance et de durcissement des politiques migratoires impactant les droits des personnes étrangères, nos associations rappellent que la protection des personnes en situation de prostitution constitue un enjeu majeur de droits humains. Le 29 avril prochain, le collectif FACTS publiera un rapport étayé d'évaluation de la loi de 2016. Conforté par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en 2024, je préférais les droits humains, entre parenthèses, mais bon, on n'en est pas encore là, la loi abolitionniste française doit être pleinement appliquée sur l'ensemble du territoire. C'est une condition indispensable pour garantir la protection des personnes victimes du système prostitutionnel, et ce, quelle que soit leur situation administrative, leur âge ou leur origine. Alors le collectif FACTS, c'est la Fédération des acteurs et actrices de terrain et des survivantes de la prostitution, aux côtés des personnes prostituées, composée de l'Amicale du Nid, de CAP International, de la Fédération Nationale des CIDF, de la Fondation CEL et du Mouvement du Nid et d'un collectif de survivantes. Et maintenant, nous allons entendre la parole de ces survivantes, de certaines survivantes. Radio Libertaire, Romy Méninge, féministe.
À Brest, cette nuit-là, il fait humide et froid. Il y a du crachin, un petit vent sur moi. Et le long des boulevards, les feux des réverbères découpent dans le noir des cônes de lumière, des entre le port et la gare, attirant les regards, errent sur les trottoirs de longues silhouettes noires. Elles viennent du Bénin, elles viennent du Nigeria, de pays de soleil où l'on ignore le froid, où l'on ignore le froid. Elles ont 16 ou 20 ans, mais n'ont pas de papier, pas d'âge, pas de nom, pas de nationalité. Elles ont été vendues, dressées à coups de fouet, et violées et battues, jusqu'à tout accepter, jusqu'à tout accepter. On les a déportées, parquées comme du bétail, et à peine arrivées, vite mises au travail. On les a amenés en voiture par paquet et là brutalement jetés sur le pavé, jetés sur le pavé. Elles ignorent le nom de la ville, de la rue, et l'on parle une langue qu'elles ne comprennent plus. Elles n'ont pas de famille, ne connaissent personne. Ce ne sont que les filles que le monde abandonne. Que le monde abandonne. Là au coin de la rue, elles sont à peine vêtues, et le vent vient glacer leur peau beaucoup trop nue. Ces filles aux yeux si tristes, mais à la peau de soie, on s'offre à la va-vite avant de rentrer chez soi, avant de rentrer chez soi. Leurs clients sont souvent d'honnêtes pères de famille, très honorablement connus dans toute la ville, qui ont parfois eux-mêmes une fille du même âge, et pour laquelle ils rêvent amour et mariage, amour et mariage. Oui, mais me direz-vous, ce sont elles qui ratolent, et puis de temps en temps, il faut bien qu'on rigole. Il n'y a pas de mal à jouir de ces filles-là, c'est tout à fait normal, car elles sont là pour ça. Car elles sont là pour ça. Sans vous, il n'y aurait pas les macros de la mafia. Sans vous, il n'y aurait pas ces petites putains-là qui grelottent à la fois et de froid et d'effroi, et qui, avant 30 ans, vont mourir du sida, vont mourir du sida. Pourrez-vous dire, messieurs, que vous ne saviez pas?
Claude Michel, qui chantait sa chanson « Brest » et qui nous a quittés dernièrement, tranquillement, dans son lit. Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, remue ménage féministe jusqu'à 14h30.
Nous accueillerons des participantes au podcast « La vie en rouge » et Sandrine Goldschmidt du mouvement d'Uni pour parler d'une violence bien particulière qui est la violence du système prostitutionnel, la violence de la prostitution. Et donc les animatrices du podcast « La vie en rouge » sont des personnes qui ont connu la prostitution et qui vont en parler en connaissance de cause et nous montrer en quoi c'est une violence. Bonjour Sandrine.
Bonjour Elisabeth, bonjour Catherine, bonjour tout le monde.
Nous avons invité aujourd'hui pour parler avec une autre personne qui va arriver.
On arrive dans quelques minutes.
Qui s'appelle Rosalie.
Oui, tout à
et
fait.
Qui est une des animatrices du podcast La vie en rouge. Et on va pouvoir découvrir avec elle la vie en rouge. Aussi bien la vie en vrai que la vie en podcast. Pour introduire ce sujet, parce que c'est évidemment un sujet... très d'actualité, puisqu'on parle beaucoup des violences, et que pour nous, féministes, la prostitution est d'abord une violence faite aux femmes. Je voudrais partager avec vous une tribune qui est parue dans Politis et qui a été écrite par Christiane Marty, membre de la Fondation Copernic et d'Attaque. Elle dit « La prostitution n'est pas une question individuelle, mais sociale. Alors qu'elle est souvent abordée sous l'angle du quotidien des personnes en situation de prostitution, soumise au contrôle policier et à une précarisation. Et il est évidemment indispensable de défendre les droits des personnes prostituées. Il est indispensable aussi de dénoncer le système prostitutionnel qui organise la marchandisation du corps des femmes. Elle regrette que dans le hors-série de Politis des corps et des femmes, cette question de la prostitution ne soit abordée que sous l'angle des personnes en situation de prostitution et pas sous l'angle du système prostitutionnel. Évidemment, Sandrine, tu vas être d'accord avec ce propos, puisque c'est aussi le propos du mouvement du Nid, qui est d'accompagner les personnes prostituées, mais aussi de dénoncer le système.
Oui, absolument, Elisabeth, et j'irai même plus loin, mais peut-être que Christiane Marty le dit après. C'est finalement un abus de langage de voir les personnes qui sont victimes en parlant de prostitution, alors que ça concerne d'abord ce que nous on appelle les prostitueurs, les clients prostitueurs qui achètent l'accès au corps des femmes pour du sexe et de ceux qui organisent le système, les proxénètes.
Alors elle développe effectivement sur le système. Elle dit ce système est très lié au trafic de drogue. Il génère d'immenses profits, en grande partie dans l'économie souterraine, en s'appuyant sur la traite des êtres humains et sur l'exploitation des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, des personnes racisées, issues d'ethnies minoritaires ou d'ex-colonies, des migrants et des migrantes ou des enfants. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2021, la prostitution a généré les deux tiers des 217 milliards d'euros de profits illégaux liés au travail forcé. Elle concerne plus de 1,7 million d'enfants dans le monde. C'est énorme. La Convention internationale de 1949 a affirmé que la prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine. C'est une violence, comme en témoignent les prostituées qui ont réussi à s'en sortir, les survivantes. Il faut écouter leurs paroles, et pas seulement la parole de quelques femmes qui affirment que ce serait leur libre choix. La première des libertés, le droit supérieur à défendre, c'est de pouvoir vivre sans devoir vendre son corps. Lutter contre la marchandisation généralisée promue par le capitalisme néolibéral commence par refuser que le corps humain, des femmes comme des hommes, devienne une marchandise. Car pour quelques personnes qui revendiquent ce choix et ou gagnent bien leur vie, c'est encore à voir, en étant escorte ou indépendante, combien d'autres sont victimes des proxénètes, dépendantes de la drogue, migrantes piégées par les pasteurs ou poussées par des contraintes monétaires, comme notamment de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui financent ainsi leurs études. Comment parler de choix ? Et quelles seront les conséquences psychiques et physiques pour ces jeunes ? Il faut bien se rendre compte que la prostitution n'est pas une question individuelle, mais une question sociale. Une question de société. On est toutes et tous concernés. Christiane Marty reconnaît que l'acte de prostitution entre deux personnes adultes consentantes dans un cadre privé peut toujours exister. Mais parler de travail du sexe, vouloir en faire un métier comme un autre, supposerait d'organiser la prostitution comme une institution de la société, ce qui reviendrait à mettre potentiellement toutes les femmes, surtout les femmes, sur un marché. Va-t-on défendre que bientôt soit créée une formation ? Avec cette orientation à proposer dans les orientations scolaires, qui envisage cet avenir pour son enfant ? Et j'ai le souvenir d'un film qui a été réalisé, je crois, par Frédéric Pollet en 2016, en mobilisation pour arriver à une loi pénalisant notamment les clients, et où elle mettait en scène une conseillère d'orientation avec une adolescente et ses parents, adolescente un peu rebelle, qui travaillait moyennement bien à l'école, et où elle propose aux parents d'envisager pour leur fille le CAP prostitution avec l'option fellation. C'était très percutant le langage de cette conseillère. Elle montre très bien comment ça disruptait dans l'esprit de celles et ceux qui ont vu ce film, qu'on n'a pas envie d'apprendre à faire ça, quoi. On n'a pas envie de se considérer que c'est un métier pour ses enfants. Et en même temps, il y a un léger doute, parce qu'au moment où, moi je trouve dans ce film, parce qu'au moment où elle parle de ça, elle a un stylo dans les mains qui, à un moment donné, explose, et donc il y a un liquide blanc qui sort du stylo, et on voit le père de la jeune adolescente qui est tout interloqué, et on se demande, moi je me suis demandé en voyant les réactions de cet homme-là, si ça lui faisait pas plutôt avoir envie d'avoir une relation de prostitution ou pas. On s'interroge à son regard. Et lui s'interroge.
Alors, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis parce que, encore une fois, je vais redire un peu la même chose, c'est qu'on ne peut pas comprendre le système prostitutionnel si on ne pense pas d'abord à ceux qui en sont à la source, les clients prostitueurs, les hommes, 100% d'hommes, hein, à quelques exceptions près. qui sont en demande d'avoir du sexe avec n'importe qui quand ils veulent. Et il faut bien remplacer que c'est eux qui ont le choix dans la prostitution. Il faut qu'on arrête de parler du choix des victimes. On parle du le choix dans la prostitution. Ce sont les clients prostitueurs qui l'ont, et les hommes. Et le regard de cet homme dans ce film peut-être fait écho à ça.
Oui, je pense. C'est qu'on sent qu'il réfléchit à ça. Et je sais, on ne sait pas quelle serait sa réponse.
Voilà, et aujourd'hui, on peut dire que dans toute l'idéologie qui promeut la notion de travail du sexe, il y a des gens qui disent clairement, aujourd'hui, parce qu'ils sont militants, oui, c'est pas un problème, oui, il pourrait y avoir des formations. Je veux dire, je pense que ils vont jusque-là, et sauf que c'est pas dans la réalité, c'est dans la théorie, parce que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Voilà, dans quel métier plus on est jeune et moins on a de compétences, plus on a de valeur, entre guillemets.
Voilà. Je vous lis maintenant la conclusion de Christiane Marty, parce qu'évidemment, je partage ce qu'elle dit. Une politique cohérente abolitionniste consiste à la fois à agir contre les réseaux proxénètes et à protéger les personnes en situation de prostitution. Il s'agit de leur garantir à elles les droits sociaux, la possibilité d'une formation, d'un emploi, d'un logement, etc. Mais en amont, il faut aussi mettre en œuvre des politiques ambitieuses de prévention, promouvoir l'éducation à une sexualité égalitaire et au respect d'autrui. Beaucoup reste à faire, effectivement, parce que moi, je me rends compte, en réfléchissant à cette question du système prostitutionnel, mais aussi à d'autres problèmes de société, que finalement, toutes les relations dans notre société sont dominées par la notion de domination. C'est-à-dire que tout est fait pour faire croire que les seules possibilités de relations humaines sont des relations de dominé et dominant. C'est jamais valorisé la question de l'égalité, du respect. C'est toujours la domination qui est valorisée, et c'est que ça qu'on peut regretter.
Voilà, c'est la domination et c'est l'érotisation de cette domination et la marchandisation de plus en plus grande. Alors moi, je voudrais quand même réinsister sur le fait que la loi de 2016, avant qu'on passe à la vie en rouge peut-être, la loi de 2016, elle prévoit ces dispositions que propose, dont parle Christiane Marty dans la tribune. Tout n'est pas mis en œuvre, loin de là, mais il y en a une quatrième aussi, qui est la pénalisation des clients prostitueurs et la condamnation à suivre des stages de sensibilisation. Et en fait, nous, on considère, et tous les abolitionnistes et les survivantes qui en parlent considèrent, que c'est seulement cette politique globale, totalement mise en œuvre de façon cohérente, humaniste et complète, avec des moyens financiers et humains, qui peut aboutir à un monde avec moins de prostitution.
C'est donc ça notre projet. Vous êtes toujours à l'écoute de Revue Ménage Féministe, Radio Libertaire.
T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps, donne tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps démesuré. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Et les airs sont changés au milieu de sablier. T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps et donne tout le temps que tu as. T'as pas le temps de tout faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Le soleil ensoleillé, les sommeils ensoleillés. Dépêche-toi de tout voir. Prends le temps de donner tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps démesuré. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Les cascades de diamants n'arrêteront pas le temps. Quand tu t'en iras, tu te souviendras.
toi, tout faire en étant à côté de ton rêve. Les désirs seront changés, oublier de saluer.
Catherine Lara, la chanson T'as pas le temps avec l'ensemble Sirba Octet de l'album Au cœur de l'âme yiddish. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, remue-ménage féministe jusqu'à 14h30.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont.
Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation.
Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo.
Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier. C'était un calvaire.
Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors,
comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problèmes dans sa vie, peut se retrouver sur le chemin de la prostitution.
Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution.
J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie, quand je me retrouvais dans la prostitution de nouveau.
On peut pas guérir le viol avec le viol.
On a survécu.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
On ne revient jamais complètement de la prostitution. Ça, c'est une certitude.
De 16 à 23 ans, j'étais dans l'industrie du sexe.
Je l'ai quitté en 2009, après 22 années, que je considérais comme un service utile à la société, alors qu'en fait, je me détruisais moi et je n'apportais rien à personne.
C'est une copine de copain qui m'a un peu entraînée dans le délire en me disant bah, « Moi, je me prostitue, c'est vachement bien, je me fais plein d'argent. Et puis, bah, si tu veux, j'ai besoin de certains services en plus pour des clients particuliers. »
Je me suis sortie d'un rapport où il y avait de violence et de l'abus psychologique. Et j'étais dans un état un peu fragile.
Moi, j'étais victime d'inceste à partir de mes 2 ans et demi jusqu'à mes 18 ans.
Je le dis tout le temps que j'avais l'impression d'être une prostituée avant même d'être prostituée, parce que avec mon premier copain, j'essayais de le faire plaisir, mais comme je l'avais vu dans la pornographie.
Donc une femme se prostitue pas, c'est vraiment les hommes qui nous prostituent.
Je pensais que c'était moi qui avais le pouvoir.
Tout de suite, les hommes prennent le dessus. C'est tu feras comme moi je veux.
Ces 22 années n'ont été que 22 années de viol, de violence. D'appauvrissement aussi, parce que même si tout le monde pense qu'on gagne de l'argent, on le gagne, on le dépense.
Quand vous avez de l'argent, vous dépensez beaucoup de l'argent et après il n'y a rien. Le client attend que vous vous habillez avec des vêtements qui coûtent très cher.
Le fait de m'apprêter pour quelqu'un d'autre et d'être dédié à son plaisir sans penser au mien, bah en fait ça m'éloignait de ce but et de cette envie de me dire bah, j'ai envie de ressentir du plaisir pour moi.
La grande partie de ma sexualité consiste à avoir été prostituée.
Comme il y a une idée que la prostitution est un choix, encore une fois, non.
J'avais l'impression que voir plus de gens, c'était la liberté sexuelle. Mais ça l'était pas, parce que purée, qu'est-ce que ça faisait un mal de chien.
Tu sais qu'il faut se rencontrer à mi-chemin dans une sexualité enthousiaste et heureuse. Pas que la femme mette ses sensations à off pour être un réceptacle pour ce que l'homme veut. Sinon, on est dans le viol.
Il y a une voie de lumière qui existe en chacun de nous, pour moi, et qui quand elle est explorée, est beaucoup plus libératrice et beaucoup plus heureuse.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous êtes bien dans Remue-Ménage féministe.
Et donc, nous accueillons Rosalie et Sandrine qui vont nous dire comment leur est venue l'idée de créer ce podcast « La vie en rouge ».
Alors, est-ce que je commence, du coup ?
Oui. Voilà.
Donc, moi, je travaille au mouvement du Nid. Je suis militante féministe abolitionniste depuis de longues années. Et je suis notamment rédactrice en chef de la revue trimestrielle Prostitution et Société. Et dans le cadre de la revue,
Depuis plusieurs années, notre comité de rédaction s'élargit et invite de plus en plus régulièrement et souvent des survivantes de la prostitution que nous connaissons, qui ont parfois témoigné elles-mêmes dans la revue ou qui viennent dans les événements parler, etc. Et c'est au sein du comité de rédaction qu'une survivante a commencé à parler de tous les sujets de ce qui venait après la période de prostitution et dont elle aimerait parler. Et ensemble, on a eu cette idée que ce serait bien d'en parler sous forme de podcast. Ensuite, elle a choisi de mener sa vie un petit peu en dehors du monde militant pour l'instant. C'était pour le coup, elle a le droit à l'oubli pendant le temps
choix.
qu'elle
souhaite. Vrai choix,
c'est un vrai choix, voilà. Et parallèlement, il y avait d'autres survivantes femmes qui étaient là et qui, elles, ont trouvé que ce serait intéressant de poursuivre ce qu'on avait commencé. Et donc, ça fait... Rosalie va pouvoir enchaîner à partir de là. En décembre 2022, on a fait un premier espèce de comité de rédaction du podcast, on va dire. On avait déjà obtenu de la Cité Audacieuse, hein, le lieu de la Fondation des Femmes au centre de Paris, d'avoir accès au studio La Poudre d'enregistrement de podcast. Et donc, on a fait un premier comité de rédaction sur place où, à ce moment-là, vous avez décidé de ce que vous vouliez dans La Vie en Rouge.
Oui, c'est ça. En fait, je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé, mais c'était vrai, c'était un sujet dont on s'est tous emparés, en fait. C'est ça qui était chouette quand ça a été mentionné qu'on pouvait faire un podcast et que ce serait organisé, etc. Ça a vraiment été un accord de toutes les survivantes qui étaient là de faire vivre ce podcast, de créer ce podcast, de l'imaginer, etc. Et à partir de là, même les thèmes, les choix des sujets, de qui parlait avec qui aussi, est-ce qu'on était seul, est-ce qu'on était avec quelqu'un. Pour chaque enregistrement, c'était vraiment quelque chose qui a été choisi par chaque personne qui était là. Donc c'était, on a eu plein de rencontres en fait au fur et à mesure. Au début, donc cette réunion là, puis après on s'est rencontrés tous pour faire les premiers enregistrements. Et ensuite on en a fait, pas chacun a fait en fonction du nombre qui faisait sens et puis de l'énergie qu'elle avait et puis de ce qui lui importait de dire pendant le podcast quoi.
Et toi, par exemple, quel a été ton premier sujet ?
Alors, le premier sujet, le truc qui m'a le plus marqué et qui nous a le plus marqué, je parle au pluriel, nous sommes un système. Du coup, c'est, je pense, c'était le fait de parler de l'entrée en prostitution, du moment où on y était, et puis de l'après, c'est-à-dire toute une sorte de notre histoire. Oui, c'est ça, de faire entrer la prostitution dans un tout.
Et ça, c'est les trois premiers épisodes du podcast où Rosalie, qui est le nom synthétique de Choisy, est en dialogue avec Alexine, qui est aussi une survivante qui intervient beaucoup. L'effet de ce dialogue, c'est très impressionnant. Et moi, moi, j'étais en soutien éditorial, logistique, financier, organisationnel du Mouvement d'Uni. On était là, j'étais là avec Claudine Legarnier aussi pour l'enregistrement, mais on était à l'extérieur du studio. On a préparé ensemble et ensuite elles sont allées toutes les deux dans le studio et nous on a entendu qu'après ce qu'il y avait, ce qui n'était pas le cas à chaque fois, mais là pour le coup c'était ça.
Oui, c'est vrai que c'était intéressant de parler avec Alexine et d'être vraiment en direct parce qu'en réalité c'était... libératoire, c'était facile et donc il y a des choses qui ont été dites pendant notre conversation qu'on dit pas aux gens, qu'on dit pas facilement, qu'on raconte pas parce que c'est trop ou c'est difficile ou les gens on a peur d'être mal compris et donc on le dit pas en général et donc là pour le coup vu qu'on était en face l'une de l'autre et que il y a une certaine complicité entre nous et qu'on se connaît déjà d'avant mais sans le podcast ça nous a quand même ça a créé des liens d'amitié qui n'existaient pas autant avant. Et donc c'était, je sais pas, ça a vraiment été une sorte de thérapie collective, cette conversation. Ouais.
Ça veut dire en fait que pour pouvoir parler de ce qu'on vit quand on est dans la situation de prostitution, il faut être vraiment dans une relation de confiance. On ne peut pas en parler comme ça.
Ça dépend où est-ce qu'on en est dans son histoire. Je pense que si on est assez fort sur ses appuis, on peut en parler à des gens qui n'en ont pas, enfin qui connaissent pas ou qui ont des préjugés, etc. Mais c'est pas facile d'être fort sur ses appuis. Il y a tellement de choses, ça blesse tellement, ça rend tellement fragile que, en fait, c'est dangereux presque parce que les gens peuvent être bien intentionnés et dire des choses qui font mal. Et puis, donc c'est très C'est très vulnérable d'en parler quand on a fait partie de ce monde-là.
Et du coup, si je peux ajouter, c'est vrai que le cadre du studio du podcast, c'est un lieu intime, de confiance. Et aussi, par rapport à toutes les sollicitations que moi je reçois pour les survivantes, pour les femmes, pour témoigner, où on ne sait pas ce qui va être fait de notre parole derrière, là, pour le coup, c'est important de dire, quand on dit un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution, c'est que votre participation ne s'est pas arrêtée là.
Non,
vous avez aussi fait le montage avec nous.
C'était la question, voilà, justement, oui. Effectivement. Du coup, une fois que vous avez fait un premier enregistrement, vous vous réécoutez et vous validez le fait de diffuser ou pas, par exemple, ou de reformuler, de reconstruire les propos. Vous travaillez...
En fait, la plupart du montage... Alors, moi, j'en ai fait une grosse partie de mon montage. J'ai pas tout fait parce que c'était très dur de me réécouter et que, comme dans le système, on n'est pas tous au même niveau d'information, comme on a de l'amnésie entre les différentes parties. Donc, il y a des choses qu'on pouvait pas vraiment réécouter à une époque. Aujourd'hui, on a déjà tout réécouté, mais à une époque, c'était compliqué. Donc, en fait, on a coupé des choses qui se coupent au montage de manière classique. Et il y avait des points où... par exemple, on avait dit des choses et on voulait pas que ça sorte. Donc, on a coupé des phrases qu'on voulait pas dire ou des choses. Après, ça dénature pas du tout les propos, mais c'est vrai qu'on a validé la version qui a été finie. Mais on a aussi participé vraiment, seconde par seconde. Enfin, s'il y avait des choses qui nous dérangeaient, des choses où on se disait ils vont mal comprendre ce truc-là, j'ai pas envie que ça soit dit, etc. On pouvait les couper. Donc, et chaque survivante a vraiment participé au montage de son propre podcast, ce qui est vraiment génial parce que ça nous apprend beaucoup. Et puis, c'est un sacré travail de se réécouter dire des choses comme ça.
C'est y compris, je pense un peu, ça fait un peu office de reconstruction d'estime de soi, de réappropriation de son histoire.
Oui, il y a une forme de ça. Il y a un côté aussi travail du déni qui est très important parce que pour toutes, je pense que c'est une histoire qui est très difficile et qui est du coup c'est facile de tomber dans le déni ou de minimiser ce qui s'est passé, et quand on se réécoute parler soi-même de ce qui s'est passé, c'est difficile de, enfin c'est plus dur de tomber dans le déni. Il y a un, pour moi, quand ça a été diffusé, il y a un avant après de déni, c'est-à-dire vraiment de me dire du coup maintenant c'est diffusé, donc ça doit être vrai. Sinon, et le déni, c'est pas rationnel, hein, ça peut partir complètement dans l'imaginaire et c'est pas, voilà. Donc, mais le fait de dire c'est vrai, c'était lourd.
De ce que j'en ai compris, moi j'ai l'impression que le déni, c'est aussi parfois une forme de protection.
Ah oui, complètement.
Ça n'est pas mal en soi, c'est pas un mensonge, c'est pas fait pour nuire à qui que ce soit, c'est fait pour se protéger, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les armes pour avancer, c'est qu'on n'a pas la capacité d'avancer et de se dire que c'est vrai. Et puis c'est un peu pour moi j'aime bien l'image de l'oignon. C'est-à-dire que c'est un oignon, le déni, on a des couches de déni, on peut enlever une couche, mais il y a le déni de dessous, et puis il y a le dessous, et puis il y a le dessous, c'est pas un truc juste, on sort du déni et puis c'est fini. C'est un processus.
Et on pourrait dire...
Je pense que c'est très important de parler de ça, parce que comme dans nos émissions en ce moment, on parle beaucoup autour du 25 novembre et des violences faites aux femmes, et je pense que c'est valable aussi pour toutes les violences qu'on subit. Cette question du déni, c'est posé aussi par le procès Pellico, c'est l'histoire de la honte. Bien souvent, c'est les victimes qui ont plus honte que les agresseurs, les violeurs, les clients de la prostitution. Ils n'ont pas honte. C'est rare qu'ils ont honte. Et même on le voit dans ce procès terrible, ces hommes-là, ils ont même à peine honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment terrible, quoi. C'est eux qui devraient avoir honte. Et c'est les victimes qui se sentent obligées d'avoir honte et qui sont donc pour essayer de s'offrir un peu moins et du réel et de la honte, utilisent cette protection qu'elles dénient.
Enfin, j'en profite juste pour la perche que tu tends pour dire que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on est en train de préparer pour notre revue Prostitution et Société. Le prochain numéro, ce sera Que la honte change de camp, avec la figure de Gisèle Pellico et une réflexion sur le procès. Mais en élargissant au fait que ce déni, cette honte des hommes qui passent les uns après les autres à la barre en disant que c'est moi la victime, en fait, enfin, ce genre de choses. J'ai eu Rosane Hichère, une autre survivante que vous connaissez bien et qui est dans le podcast et qui m'a dit hier, mais enfin c'est incroyable, la défense de tous ces hommes, c'est la même défense que celle des clients prostitueurs qu'on entend en stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels, donc qui est fondée sur le mensonge, sur le fait de se faire passer pour la victime, etc., etc.
Oui, alors c'est vraiment moi. Je pense pas qu'ils aient pas honte. Je pense que là, alors il y a deux choses. Les victimes qui ont honte, la honte, c'est souvent que c'est considéré comme un symptôme d'un trauma. Donc c'est presque un automatisme du cerveau de protection aussi, parce que ça fait mal et que la douleur, en fait, ça fait trop mal et que ça c'est comme le déni, c'est un peu comme la honte, ça s'enlève en couche et plus on enlève la honte et plus on est en colère. Et plus la réalité devient devient tangible et réelle, et en fait on en arrive à notre douleur réelle, et c'est vraiment un processus parce que c'est super intense comme douleur. Donc on peut pas y arriver direct. Et donc la honte, en fait, elle cache la douleur, mais on peut pas. Enfin, je pense que c'est vraiment un mécanisme du cerveau qui se crée presque automatiquement. C'est pas les victimes, elles choisissent pas d'avoir honte, et c'est vraiment un symptôme. On peut pas vraiment y échapper, en fait. Et par contre, la honte, en termes de social, c'est une émotion qui est très sociale. Donc en fait, les agresseurs, ils se complaisent entre eux. Hein. Je veux dire, il y a un côté, si toi t'as pas honte, moi j'ai pas honte, et puis tout le monde a pas honte. Mais si la société dit, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, vous devriez avoir honte, il y a un côté, et du coup, en fait, elle se crée comme ça, quoi, par le fait de dire, ça se fait pas. Ça se fait pas ce que vous faites.
Et c'est la grosse partie de l'entre-soi masculin, et Rosalie a d'ailleurs participé à l'élaboration de ce dossier qu'on est en train de Claudine Le Gardini a rédigé derrière. Et voilà, c'était très important d'avoir cet aspect-là.
Il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est souvent quand les. Parce que donc, moi, sache-nous, on a été agressés par des groupes entiers d'hommes à une époque, donc on avait quoi, 15 ans, 16 ans. Et en fait, c'est vraiment. C'est un peu le même mécanisme que pour les victimes, c'est-à-dire que pour en arriver à agresser quelqu'un comme ça, en fait, c'est petit à petit, on réduit et on dépasse des barrières psychiques de la personne jusqu'à ce que elle banalise ce qui est en train de se passer, mais à un niveau complètement délirant. Et en fait, dans les groupes d'agresseurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui le fait, et puis l'autre qui le fait, et puis qui banalise pour l'autre, et puis ça banalise, ça banalise, ça banalise, ça banalise. Et donc l'échelle de la violence, elle devient énorme. Alors que
ça fait que augmenter les degrés de violence exercés.
Un s'autorise, l'autre s'autorise aussi, et puis finalement, c'est peut-être pas si grave.
Se complaisent et s'encouragent les uns les autres à être de plus en plus violents. C'est sûr.
Et souvent, c'est au bénéfice d'une. Enfin, alors dans mon cas, par exemple, c'était au final au bénéfice de mon proxénète, parce que c'est lui qui se faisait du fric. Donc c'est lui qui encourageait et qui banalisait la situation, parce que c'était complètement dans son intérêt.
Thank you.
Par leur musique, le trio Joubran, composé de trois frères musiciens de oud que nous venons d'entendre, ce magnifique instrument, rend hommage aux luttes et à l'oppression des peuples autochtones et affirme en particulier que leur musique prend part à la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance et la libération. Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, remue ménage féministe jusqu'à 14h30 avec nos invités dans le studio.
Nos invités, Rosalie et Sandrine, merci de participer à cette émission qui nous oblige à nous interroger et à nous questionner sur nos préjugés concernant le système prostitutionnel. Vous avez conçu et réalisé un podcast qui s'appelle La vie en rouge. Est-ce que vous pouvez dire comment on peut l'écouter? Quels sont les liens possibles hein, sur Internet?
Alors, La vie en rouge est un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, sont 10 ou 12, et également sur YouTube. Et également sur le site du Mouvement du Nîmes, mais ça ne sera pas forcément l'endroit le plus. Pour l'instant, c'est un podcast qui a été le plus écouté sur Spotify. Et donc vraiment c'est disponible sur toutes les plateformes. Il y a un pour le trouver, il faut taper La vie en rouge, le podcast conçu et réalisé par des survivantes de la prostitution, puis on le trouve facilement.
Comment vous est venue l'idée de prendre ce mot et à quoi ça fait référence pour vous?
Alors en fait, le titre du podcast, ça a fait l'objet d'un vrai atelier de réflexion entre toutes les survivantes qui étaient là. Donc on a vraiment eu plusieurs étapes de choix, etc. Et c'est Alexine qui a trouvé ce titre-là. Je pense qu'elle faisait référence à la fois au côté la vie en rose et l'idée que la prostitution, c'était un peu la vie en rose, qu'on avait beaucoup d'argent, etc. Qui était, le but étant de dire, ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et le côté aussi la vie en rouge, qui du coup fait référence, le rouge, souvent à ce qu'est la prostitution et les quartiers de prostitution et comment est-ce que ça se passe dans ces zones-là, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez mis le podcast en ligne? Quel type de retour vous avez eu et qu'est-ce que vous avez fait pour le faire connaître?
Alors, on l'a lancé le 18 mars de cette année. Il y avait 18 épisodes diffusés chaque lundi jusqu'au 15 juillet à peu près. Et donc, en amont de cette sortie du podcast, on a fait un dossier de presse, une campagne de communication. Alors, quand je dis « on », c'est le Mouvement du Nîmes, mais aussi toutes les femmes qui ont participé, qui ont lu le dossier de presse, qui ont donc fait l'atelier d'écriture du titre, etc. Et ensuite, on a fait une soirée de sortie du podcast à la Cité Audacieuse, toujours, en présence de presque toutes les femmes qui... Enfin, de 4 ou 5 des femmes qui avaient participé, parce qu'il y en a une quand même qui était au Québec, une en Angleterre. Voilà, donc elles ne pouvaient pas être là régulièrement, mais en tout cas, elles ont enregistré à l'occasion de leur passage en France. Et donc cette soirée a permis ensuite, bon, évidemment on a fait des campagnes de réseaux sociaux, on a un compte Instagram de La Vie en Rouge qui est co-animé par moi et par Lexi qui est aussi dans le podcast. Et donc ça a été beaucoup largement diffusé à partir de là. Et à ce jour on a 80 000 écoutes, ce qui est formidable, voilà, pour faire entendre un autre discours. Et on en reparlera peut-être après, parce que là je vais laisser Rosalie dire un peu comment on a fait cette soirée, comment ça s'est passé. Mais voilà, ça a mené à des choses par la suite.
Oui, en fait, on a eu une soirée, je ne sais plus quand est-ce que c'était, au lancement.
18 mars.
18 mars, oui, c'était ça. C'était très touchant, en fait. On s'est toutes retrouvées. En fait, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas toutes vues, parce qu'on n'a pas forcément enregistré le podcast au même jour, etc. Donc là, qu'on soit toutes là à se dire, bon, bah, ça y est, on y va. c'était intense, c'était quelque chose. Et puis... c'est quelque chose de dire les choses derrière un micro, c'est complètement autre chose de se présenter face à tout le monde et à parler et montrer sa tête. Et c'est pas forcément... c'est un autre type de vulnérabilité. Moi, j'avais du coup la charge de donner la parole et d'écouter, etc. Ce que j'ai vraiment adoré faire, parce que je me suis rendu compte que c'était presque une évidence de faire ça, de s'écouter et de valider les points de vue des uns et des autres, des unes et des autres. Et c'était pas forcément quelque chose qui nous sépare, mais quelque chose qui nous rassemble au final. qu'on ait toutes quelque chose à rajouter et une pierre à apporter à cet édifice. Donc c'était vraiment une belle soirée et j'ai un très bon souvenir.
Est-ce que tu peux partager avec nos auditrices et auditeurs quelques réactions de la salle dont tu te souviens?
Bah, les gens étaient très contents. Ils sont venus nous remercier à la fin, nous dire bravo aussi. Je pense que c'est comme si une parole qui est très peu... on donne pas beaucoup la parole aux survivants, donc en fait c'était touchant de voir que les gens voulaient nous écouter. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle, il y avait des gens qui étaient debout au fond, il y avait plus de chaises, donc c'était vraiment, je sais pas, ça donnait l'impression que si on touchait toutes ces personnes là et que ben ils avaient vraiment l'air de vouloir écouter, ils étaient vraiment là pour nous. En fait, ils allaient eux-mêmes en parler à d'autres, et puis ça allait faire des petits et des petits. Et au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec le podcast, donc ça, c'était chouette.
Et moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Moi, je suis journaliste de formation, et les journalistes, souvent, ils ont, c'est eux qui posent les questions, c'est eux qui savent et qui vont vers les gens et qui leur laissent une petite place, une petite parole. Moi, je suis un peu critique envers ce métier de façon générale.
Oui, mais moi, je vois ça beaucoup, notamment à la télévision. Je trouve que je déteste les débats, généralement, à la télévision, parce que en fait, c'est les animateurs qui parlent. Ouais. Et accessoirement, ils donnent un peu la parole aux autres, mais au fond, c'est pour se faire valoir eux, et pas le contenu de ce que des personnes peuvent apporter. Voilà.
Et moi, j'ai découvert, parce qu'à côté de ça, c'est vraiment un métier que j'adore, sur ses principes de fondamentaux, c'est d'élargir la vision du monde, etc. Et ce que je trouvais extraordinaire, deux choses avec en étant associée avec les survivantes dans ce podcast, c'est d'abord que Rosalie vient de le dire, il n'y a pas que moi qui s'est animé une soirée, elle aussi c'est très bien faire, et c'est pareil quand elle préparait les podcasts, etc. Et ça, c'est aussi ouvrir un espace où il y a la possibilité de se découvrir d'autres compétences et d'autres capacités de faire. Et si vous écoutez l'épisode 17 de La Vie en Rouge, Ma Voix, Une Force, vous allez entendre les 7 survivantes dire ce que ça leur a fait, le podcast. Et ça, c'est, je pense que, alors moi, ça me provoquait une émotion extraordinaire. Et la deuxième chose, mais très rapidement, je voudrais dire que...
On a tout notre temps, ce
voilà. Non, mais parce que c'est pas forcément ce que je dis là qui est le plus important par rapport à la parole des survivantes, mais en tant que journaliste, je pense que ça me donnait l'idée que il y avait une nouvelle forme de journalisme possible, un peu à la manière dont on a fait La Vie en Rouge. Bon, c'est, on va dire aussi que c'est le monde des associations et sociales, de faire, l'action dans l'égalité entre les personnes, mais vraiment qui me donne vraiment une idée sur ce que pourrait devenir un journaliste qui soit vraiment journaliste, qui soit vraiment intéressant.
C'est vrai que ça me parle tout à fait, parce qu'en tant qu'animatrice d'émissions de radio depuis plus de 40 ans, peut-être pas loin de 50. C'est mon propos, en fait. Moi, vraiment, ce qui me passionne dans les émissions que j'ai faites depuis toujours, ça a été de donner la parole. Évidemment, j'en prends des choses. Moi, à chaque émission, j'ai appris quelque chose. À chaque émission, j'ai rencontré une personne ou plusieurs. Et moi, c'est ça qui me motive à continuer et à faire ces émissions, parce que je trouve effectivement, bon, ça c'est d'une banalité grave pour les féministes, c'est que les femmes ont moins la parole que les hommes, c'est que les personnes survivantes de la prostitution ont moins la parole que celles qui se revendiquent travailleuses du sexe et qui oblitèrent complètement la parole des survivantes, qui sont majoritaires, enfin, que c'est des travailleuses du sexe qui se revendiquent comme telles, sont les minorités, et on ne donne pas la parole à la majorité des personnes qui subissent le système professionnel. Et donc, moi, j'ai vraiment mon propos dans les émissions, évidemment que je parle un peu, pour rebondir, pour questionner, j'ai un souci aussi, évidemment, de donner la parole, mais aussi que pour les auditrices et les auditeurs, ça leur permette de réfléchir mieux à des sujets auxquels ils n'ont pas encore réfléchi, ou pas beaucoup réfléchi, ou ils sont laissés submerger par les préjugés. Et c'est en ça que moi, je trouve la parole des survivantes, depuis la première fois que j'en ai entendu en parler, moi, je pense que pour moi, la première survivante que j'ai rencontrée, c'est Rosanie Cher, dont vous avez parlé tout à l'heure, ça a été extrêmement parlant pour moi. J'ai dit, ah mais oui, mais c'est elle que je veux entendre. Les autres, non.
Ouais. Dans le la construction du podcast, c'est vrai que ça a été vraiment redonner la parole et redonner une forme de pouvoir en fait aux survivantes et à nous qui avons vraiment subi en fait pendant très très longtemps. Et c'est assez formidable. Enfin, dans la partie communication, etc. On a du coup été interviewé par une journaliste du Monde, donc il y a un article qui est sorti sur mon histoire, Rosalie, qui parle justement de toute ma vie, en gros. Et c'était vraiment, c'était très touchant parce que ça s'est très bien passé. J'ai pas toujours eu des très bonnes expériences avec les journalistes, mais là pour le coup c'était super. La journaliste, elle était vraiment, on avait cadré en termes de temps, etc. J'avais le droit de dire ça, je veux pas que ça soit dit, etc. Puisque c'est quand même, ça en vient de ma sécurité, en fait, pour me protéger vis-à-vis des proxénètes et de tout ce monde-là. Donc, j'ai vraiment apprécié toute cette expérience de cet article. Et donc, quand l'article est sorti, il y a vraiment eu une pique d'écoute, ce qui est très touchant pour moi, parce que ça veut dire que voilà, les gens ont eu envie d'écouter et ont eu envie de savoir comment est-ce que ça se passe réellement en France, en fait, et dans ce monde dans lequel on vit.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leur âme, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu tout flamme, tu as servi le corps des femmes? De femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle, je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace. Porte femme, porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi là, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix.
Merci beaucoup.
Bravo Mathilde qui nous chantait Le corps des femmes. C'était un concert au Café de la Danse en 2019. Merci Mathilde pour toutes tes chansons que nous aimons beaucoup sur Radio Libertaire. 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Nous sommes toujours dans Remue-Ménage féministe jusqu'à 14h30 avec nos invités dans le studio.
Et donc toujours avec Rosalie et Sandrine, encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour partager votre vécu et votre analyse du système prostitutionnel. On vient donc de présenter comment s'est construit le podcast, que ça vous a apporté, comment vous avez travaillé à le faire connaître. J'aimerais maintenant que vous partagiez quels ont été les retours que vous avez eus. Tu as parlé d'un article dans Le Monde, mais il y a eu d'autres retours. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément là-dessus?
Alors bon, ça c'est moi qui ai suivi en tant que chargée de communication. On a eu quand même 3, 4, 5 articles, donc en plus de l'article du Monde, entre la radio, la presse, la dépêche AFP. Il y a eu un autre moment important qui a été que... quand la stratégie gouvernementale pour appliquer la loi abolitionniste a été présentée début mai, c'était donc à l'époque la ministre de l'époque qui avait fait c'était Aurore Berger qui a présenté cette stratégie gouvernementale et qui a invité les survivants de la vie en rouge à venir et à parler. Donc il y avait Rosane Nicher, Lexi, Anne qui était et une autre qui est pas dans la vie en rouge, Hope, qui était présente pour parler avec les journalistes. Mais ça, clairement, le fait que le podcast soit disponible, que pour la première fois, il y a quand même 7 survivantes qui ont fait ensemble ce podcast, c'était important. Ah oui, j'en profite pour signaler que c'était assez extraordinaire, parce que la même semaine où, le lundi, en France, on a sorti La Vie en Rouge, le mercredi, et on a découvert ça, moi j'ai découvert ça la semaine même, la CATW, Coalition contre le trafic des êtres humains, qui est la grosse association abolitionniste aux États-Unis, sortait avec des survivantes, dont Mélanie Thompson en particulier, états-unienne, un podcast de survivantes qui s'appelait Exit Wounds, les blessures de la sortie de prostitution, qui a eu une dizaine d'épisodes. En même temps, voilà. Donc c'est vraiment un mouvement global quand même où il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, qui s'organisent pour le faire et qui le font à la façon dont elles souhaitent le faire.
Après, qui plus est, avec un regard très critique sur la prostitution, parce que des femmes parlant de la prostitution, il y en a déjà eu. Je pense notamment à une qui s'appelle Griselidis, mais qui la romantisait, qui faisait croire à une liberté de se prostituer, alors que là, toutes les survivantes, elles sont plutôt à dire que c'est pas une liberté de se prostituer.
Oui, après, il y avait aussi des témoignages de femmes, que ce soit Jeanne Cordelier aussi, ou Nelly Arcand, où c'est beaucoup plus complexe et absolument prodigieux. Mais là, je parle d'un podcast avec 7 voix de femmes ensemble et à l'époque actuelle.
C'est plus un mouvement, c'est plus collectif.
C'est plus un mouvement collectif. Voilà.
C'est ça qui est intéressant à constater.
Et oui, parce que c'est aussi une des grandes choses contre lesquelles il faut lutter. Ils nous ont divisé les femmes dans la chanson. Bah, c'est l'isolement dans la prostitution, c'est encore bien pire que dans tout le reste. Alors sur les messages qu'on a reçus, on a reçu beaucoup de messages via Instagram, via les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires sur YouTube, extrêmement, grateful, reconnaissant aux survivants de prendre cette parole de soutien. Et parmi ces commentaires, il y a évidemment des gens qui sont observateurs, observatrices, mais qui étaient déjà convaincus par le positionnement qu'ont les survivantes et du fait que la prostitution le système prostitueur est un monde de violence. Mais il y en a aussi qui ont écrit sur LinkedIn, j'avais une vision un peu romantisée de la prostitution, vraiment maintenant je peux plus penser pareil, etc. Des gens qui ont écouté toute la saison. Et qui à la fin disent ça. Il y a aussi de nombreuses femmes qui, survivantes ou survivants, qui nous ont écrit parfois un message privé pour dire merci pour vous parler. Peut-être que ça me donnera à moi aussi la force de le faire. En tout cas, je vois que c'est possible. Et je sais qu'il y a un compte Instagram qui s'est créé d'une femme qui depuis raconte tout ce qu'elle a vécu dans la prostitution, etc. Et après, il y en a d'autres qui l'ont contacté pour à leur tour enregistrer le podcast. Ensuite, puisque à la fin, c'est Rosalie d'ailleurs qui disait ce message, hein, qui expliquait comment ça a été fait et qui disait si vous aussi vous avez connu de la prostitution et que vous souhaitez en parler, vous pouvez nous contacter. Donc sur le compte Instagram, sur le compte TikTok, ou via le mouvement du Nid aussi. Et dernière chose, depuis notamment à partir de cet été, donc une fois que la saison était finie, on a été contacté à plusieurs reprises par des personnes qui ont juste écouté le podcast et qui se disent bon, moi aussi je veux devenir bénévole, puisqu'à la fin du podcast on dit que c'est le mouvement du Nid qui a soutenu le podcast, et j'aimerais bien devenir bénévole suite à l'écoute du podcast. Alors ça aussi c'est très fort.
Qu'est-ce que ça veut dire devenir bénévole au mouvement du Nid? Ça veut dire faire quoi?
Ça veut dire beaucoup de choses. Devenir bénévole au mouvement du Nid, ça veut dire d'abord aller voir une équipe de terrain. On a 26 délégations à travers la France métropolitaine et la Martinique. Et donc de rencontrer nos équipes bénévoles de terrain pour voir avec elles comment agir concrètement.
Et on a 6 axes. Toutes les équipes ne font pas forcément tout à fait la même chose, ça dépend de la réalité du terrain.
Voilà, c'est ça. Donc on a 6 axes d'action principaux, hein, la rencontre sur les lieux de prostitution, que ce soit la rue, la forêt, Internet aujourd'hui, l'accompagnement, inconditionnel évidemment, de toutes les personnes qui souhaitent quelque chose, qu'elles veuillent sortir de la prostitution ou pas. Nous, notre accompagnement, son objectif, c'est d'être vers la sortie des violences. On les accompagne là où elles en sont, quoi. On ne dit rien aux personnes sur ce qu'elles doivent faire. C'est elles qui décident de ce qu'elles veulent faire avec nous. Ensuite, on a la formation auprès des professionnels, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis la loi, et on a énormément... on ne fait pas de la formation auprès des professionnels tout de suite quand on devient bénévole, mais ça peut devenir un jour. De la prévention dans les collèges, les lycées, tous les lieux où il peut y avoir des jeunes, sur une éducation à la vie affective et sexuelle, libérée de la violence et de la marchandisation. Et sensibilisation et plaidoyer aussi, également. Donc on peut participer à plein de choses, on peut participer à la revue. Mais il y a tout un processus d'intégration de l'association, où on peut choisir ce qu'on sent le mieux de faire, et ensuite il y a un processus de formation.
Bien sûr. Tout à l'heure, quand on a parlé de la loi de 2016 et notamment de la pénalisation des clients, dans cet axe-là, pénalisation des clients, il peut être question de stage de sensibilisation pour les clients. Est-ce que le Mouvement du Nid en organise, ou est-ce que c'est plutôt d'autres associations?
Alors, pour que des stages clients existent, il faut que le parquet se soit emparé de la question et décidé de les organiser. Ensuite, ça se fait en partenariat avec des associations de suivi socio-judiciaire et des associations spécialisées comme le Mouvement du Nid. Donc nous, on participe aux stages clients dans 5 ou 6 départements.
C'est pas institué partout déjà?
Non, pas du tout. Et c'est en région parisienne, c'est plutôt la Fondation Celle qui le fait, notamment à Paris et dans le Val d'Oise. Et c'est là où il y a eu le plus de verbalisation, et donc où il y a eu le plus de clients prostitueurs en stage, au moins 1000. Donc nous, on participe dans pas mal de départements, et quand on y participe, il y a des survivantes qui ont été associées aussi. C'est particulièrement difficile et délicat quand même. Il y avait, et je vais en profiter pour dire un mot de Laurence Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Laurence, qui a écrit un livre remarquable, Renaître de ses hontes, et qui a appelé le Mouvement du Nid quand elle avait 17 ans et était sous l'emprise de proxénètes à Paris, rue Saint-Denis. Le jour même, elle a été sortie aider à sortir de la prostitution par le Mouvement du Nid de l'époque, c'était dans les années 80. Et ensuite, elle a mené un peu, elle a témoigné en 87 pour notre vue. Ensuite, elle a vécu sa vie, puis elle est revenue milité au cours des années 2000-2010, donc quand elle a écrit son livre, pour la loi de 2016. Et malheureusement, elle est décédée il y a un mois à peu près. Elle avait seulement 57 ans, mais elle avait une grave maladie. Et c'est vraiment sa
elle
voix...
Elle était fragilisée aussi par son passé.
Alors ça, c'est pas à moi d'interpréter ça. Je vous donne les faits, mais on peut imaginer ça, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une force, une... Quand elle parlait, dirait Claudine, le gardinier, on entendait les mouches voler. Enfin, vraiment, tout le monde se taisait. Et elle a notamment... Elle est extrêmement émouvante. Et il faut savoir ce que ça lui coûtait de témoigner. Elle disait qu'elle était malade 3 jours avant et 3 jours après. Elle a témoigné devant l'Assemblée nationale au moment de la préparation de la loi. Et ensuite, elle a participé au stage client, où elle disait que pour elle, ça a réparé quelque chose, parce qu'enfin, elle pouvait dire en face à, voilà, ce que, et à des gens, et à des hommes qui l'écoutaient. Et puis, Rosanne Hischer, l'autre survivante, elles ont fondé toutes les deux le mouvement des survivantes, a aussi beaucoup participé, énormément participé au stage à Paris. Voilà, il y a énormément de choses à en dire, voilà, parce que c'est vraiment aussi des lieux où on découvre des choses incroyables. Voilà, bon, c'était long un peu, mais c'était pour parler des survivantes qui y participent, et vraiment, voilà, c'est très très courageux de leur part de l'avoir fait, parce que je pense que c'est difficile pour...
Tout à fait, bravo, merci.
Et ce serait pourtant si bon de ne plus voir toute la merde, de rejeter le quotidien, la misère de tous nos esprits, de se dire et se répéter que tout fissure, que tout pourrit, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans. On serait beau sans le savoir, mais il faudrait gratter la crasse. C'est fatigant de s'émouvoir sur tout ce qui nous fait pleurer. C'est reposant de regarder l'herbe, les femmes et les garçons, de jouir de tout sans trouble fait, les oreilles et les yeux en grève, de jouir de tout sans trouble fait, les oreilles et les yeux en grève. Dans de pauvres contrées martyrs, les vies s'arrêtent bien trop tôt, au fusil napalm, à la scie, à la bombe à vie, au couteau, ou doucement dans le travail, les camps, les prisons ou l'exil. Tout se tient, tout se ressemble, la faim, l'ennui et la mort. Tout se tient et se ressemble, la faim, l'ennui et la mort. Nous sommes ici bien au tiède, dans l'angoisse démocratique. Pas de camp, pas de grandiose, on tue la tête à petit feu, dans le ronron mécanique de la liberté machine et le droit républicain de voter pour nos gardiens, et le droit républicain de voter pour nos gardiens. Ce serait pourtant si bon de ne plus voir toute la merde, de rejeter le quotidien, la misère de tous nos esprits, de se dire et se répéter que tout fissure, que tout pourrit, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans.
Radio Libertaire 89.4, Romy Méninge féministe, jusqu'à 14h30. Nous venons d'entendre Serge Ujirouyou de l'album Quartier de couleurs, qui nous chantait « Et si j'osais chanter la beauté des choses ?»
Et donc nous sommes toujours avec Rosalie et Sandrine pour évoquer le podcast La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution, qui est disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement. Donc La Vie en Rouge, que je vous invite à écouter. 18 épisodes ont déjà été diffusés pour la saison 1 et vous êtes en train de préparer la saison 2. Alors, qu'est-ce que vous faites pour préparer ça ?
Alors bon, donc je vais commencer, mais je vais dire rapidement. On a donc été contactés aussi par des femmes qui souhaitaient à leur tour témoigner. Et il y a 15 jours, on a fait une soirée à l'occasion de la venue de Valérie Tender, qui a aussi participé au podcast. Et où elles sont, c'est encore Rosalie qui a animé, donc on pourrait dire, mais qui a posé la question à deux qui étaient là, Ambre et Sabine, de ce que ça leur faisait de participer à la saison 2. Et à ce moment-là, aujourd'hui, toutes les deux enregistrées, on a déjà fait 3 enregistrements. Et elles ont dit vraiment ce que ça leur avait fait la saison 1, je ne sais pas si tu te souviens, la saison 1 et pourquoi elles voulaient faire la 2.
Oui, c'était très touchant parce que, en fait, en écoutant le podcast de la saison 1, elles se sont dit qu'elles voulaient faire la même chose et que c'était très clair et qu'elles voulaient participer à ce mouvement de libération de la parole. Il y a 2 personnes qui étaient là, qui étaient à la soirée. Du coup, il y en a d'autres qui vont participer à la saison 2. Et les deux, c'était vraiment... comment dire ? Ça donnait cette impression qu'on leur tendait la main et qu'elles la prenaient, quoi, qu'elles allaient venir avec nous et puis on les emmenait dans l'aventure, quoi. C'est très... c'était vraiment un moment... je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc c'était... c'est magnifique de voir ça parce que quand on a commencé la saison 1, on savait pas où est-ce qu'on allait, quoi. On savait pas s'il y aurait une saison 2, on savait pas si ça allait vivre, etc. Maintenant, on se dit, il y aura une saison 2 et puis l'autre jour, on discutait de la saison 3. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et puis, on se dit... au final, que ça permet à des gens de vivre mieux, en fait. Ça permet à des personnes qui ont survécu aussi de vivre mieux le fait d'avoir survécu et de pouvoir en parler à d'autres et de dire c'est ça qui m'est arrivé et j'ai pas de raison de me cacher, quoi. Et c'est vrai que ça, moi, ce que j'ai trouvé super important dans la saison 1, c'est que ça donne des clés de lecture qui sont différentes, ça met des lunettes différentes sur la société, sur la prostitution, sur les violences masculines, sur qu'est-ce que ça fait de entre guillemets gagner de l'argent comme ça, etc. Donc c'est chouette de voir quand les gens s'emparent de ces nouvelles informations et de ces ajouts pour pouvoir construire quelque chose d'autre pour eux-mêmes, en fait, et pouvoir avancer dans leur propre vie, dans leur propre chemin. Parce que dans les deux qui étaient là, du coup, à la soirée de lancement, il y en avait une qui est, je pense, plus jeune que moi, qui doit avoir dans la vingtaine, et l'autre qui avait 60 ans environ. Du coup, c'est vrai que ça touche des personnes qui ont des vécus complètement différents, qui ont des passés complètement différents, et pourtant elles se sentent toutes les deux concernées et elles ont envie d'être là, quoi. C'est vrai que c'est super impressionnant. Enfin, c'est enrichissant et c'est impressionnant.
Je pense qu'il y a aussi cette prise de parole pour chacune, c'est avoir un peu plus de force chacune, et c'est aussi avoir un peu plus de forme toutes ensemble, parce que j'ai envie de dire, c'est pas un joli mot, mais un peu l'empilement des témoignages renforce chaque témoignage, peuvent aider à la prise de conscience pour les personnes qui ont besoin de comprendre mieux ce que ça fait aux personnes, est-ce que c'est leur vie. Et il y a les deux aspects, quoi. C'est ce que ça fait pour chacune, cette prise de parole, cette reprise un peu de confiance en soi, d'assumer son histoire avec toutes ses douleurs, ses difficultés, mais de plus en avoir honte, en fait, et ce que ça fait dans le travail collectif, tu le dis bien, on n'est pas à la télé, on n'a pas les gestes, mais tu montres bien dans tes gestes comment ce lien de sororité, de solidarité se construit.
Oui, je trouve que c'est vraiment chouette parce que, par exemple, quand on était en train de discuter avant de passer et de discuter, enfin, et d'avoir ce moment devant tout le monde, on discutait du risque de retomber dans la prostitution. Et il y en a une qui dit ah ouais, moi j'ai tout le temps peur parce que je me dis waouh, je vais et si ça réarrive, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais y retomber, est-ce que, enfin, et en fait c'était incroyable parce que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que le risque existait pour tout le monde et était dans la tête de tout le monde. Et en fait, du coup, par ce biais-là de dire bah, moi aussi, et ben, on s'est senti moins seul et on s'est senti plus légitime. Et puis, c'était moins bizarre, en fait. C'était pas bizarre, c'était complètement normal comme sentiment. Et c'est vrai que ça fait du bien de se sentir comme ça, parce que c'est pas facile de trouver des gens avec qui discuter de ça et de dire ah, moi aussi en fait. c'est pas une évidence, quoi.
Et c'est très très fort, effectivement, parce que bon, Sabine a dit je ne suis plus toute seule sur scène, Ambre a dit c'est en effet extrêmement consolant de vous entendre, de dire que c'était possible de parler, que j'étais fière de vous et que peut-être je pourrais, si je parlais, être fière de moi-même. Mais là, on entend bien dans tout ce que vient de dire Rosalie, c'est-à-dire ce fardeau immense qu'on doit se porter toute seule. Et ben, si à un moment donné, on ne peut plus être complètement toute seule, et ça, c'est aussi toute la philosophie du mouvement du nid aussi de prévoir ça, et que fait cette rencontre, elle nous dépasse totalement, la rencontre encore entre survivantes, c'est-à-dire que ça dépasse toutes les espérances les plus fortes qu'on peut avoir, mais il se crée quelque chose entre vous et avec nous, et moi en l'occurrence, qui montre effectivement un peu ce que ça pourrait être un après, un monde après tout ça.
Un monde d'après, ce serait un monde sans prostitution.
En tout cas, oui, il y en a beaucoup moins. Et oui, bien sûr.
Oui, et puis un monde où y aurait au final plus de personnes qui seraient à même d'écouter, d'entendre, d'accueillir la parole, en fait. Parce que c'est vrai que au-delà, enfin, le fait que la prostitution n'existe plus. Je pense pas qu'on je le verrait.
On a du mal
à l'imaginer, ça devient un peu, ça paraît utopique.
C'est bien les utopies dans la vie.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le fait aussi de pouvoir en parler et de dire, de le dire, et que les personnes en face se sentent pas complètement démunies face à cette parole de quelqu'un qui dit. C'est un peu comme aujourd'hui. Enfin, à une époque, quand quelqu'un disait j'ai été violée, on savait pas quoi dire. On bégayait, ou alors on lui disait qu'elle mentait, ou alors on savait pas comment l'aider. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail dans la société actuellement d'apprentissage aux personnes, de dire c'est ça qu'on dit. Quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous répondez? Et en fait, c'est vrai que dans le cadre de ce podcast, c'est aussi un peu ce travail-là qu'on fait. Quelqu'un vous dit en fait, je suis tombée dans la prostitution. Qu'est-ce que vous lui dites? Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Qu'est-ce qui peut être des choses qui vont lui faire la faire avancer, qui vont l'aider, etc., ou qui vont la soutenir? Parce que actuellement, c'est un peu comme à l'époque où on parlait du viol et on disait oublie, ça peut passer à autre chose. La prostitution, c'est pareil, c'est une forme de trauma gigantesque, donc on peut pas juste dire oublie, ça marche pas. Donc il faut apprendre en fait aux personnes qui font pas partie de la prostitution et qui font pas partie du monde, je dirais de la santé mentale de manière générale, mais même dans ce monde-là, je pense qu'on peut en apprendre encore, on peut leur en apprendre beaucoup. Comment faire, quoi, qu'en fait, on reste des personnes, et puis on reste des êtres humains, et on a une vie après, et que ça ne s'arrête pas là, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qu'on n'entend pas assez, et les gens ne savent pas quoi dire, et ils sont mal à l'aise, ils sont malheureux pour toi, mais en même temps, il y a toute la réflexion du travail du sexe qui, du coup, cache, en fait, de manière gigantesque, le trauma qui existe en dessous. Parce que les gens s'imaginent que si on a été prostitué, oh, t'étais travailleuse du sexe, donc on s'en fiche, en fait. Et pas du tout.
Peut-être même tu prenais ton pied, quoi. Enfin,
voilà, c'est ça. C'est comme si. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est une catastrophe. Donc c'est vrai que ça permet d'éduquer les gens à la gentillesse face à ça, quoi. Face à la prostitution.
Et au respect.
Et au respect, ouais. Et à l'humanisation, en fait, de redonner une sorte de dignité et d'humanité aux personnes en situation de prostitution, parce que on est tellement déshumanisé. Soit on est déshumanisé, soit on est. Je sais pas comment dire ça. On nous donne tous les travers du monde, c'est-à-dire on nous stéréotypise, quoi. Ouais. On devient un stéréotype, et quand on dit j'ai été prostituée, les gens se. plaque un stéréotype sur la personne, alors qu'en fait, c'est pas, on est toutes différentes. C'est, il n'y a pas de ce stéréotype, il n'a pas de raison d'être.
Qu'est-ce que vous voudriez encore dire dans les quelques minutes qui nous restent ?
Moi, j'écoutais Rosalie, là. Hein. Mais simplement, sur la deuxième saison, peut-être, on a déjà à peu près une dizaine de nouvelles personnes qui pourraient témoigner. Donc, c'est très impressionnant. On va essayer de faire le maximum pour arriver à enregistrer tout ça. Ça sera peut-être pas suffisant. Enfin, ça sera peut-être trop pour la saison 2, qu'on espère sortir à nouveau au printemps 2025. Les montages ont commencé, mais tous les enregistrements ne sont pas encore faits. Il y en a toujours des nouvelles personnes. Donc, voilà, c'est vraiment un mouvement important qui se fait avec, par et pour les personnes concernées, comme diraient d'autres. Et que, c'est pareil, voilà, s'il y a des gens qui veulent nous contacter, juste pour discuter, parce qu'il faut savoir que, ben, c'est pas comme quand c'est la presse, on vous dit pas « Ah oui, je ne veux de toi que pour témoigner ». C'est qu'il y a d'autres besoins, d'autres possibilités, on discute ensemble et on voit ensemble ce qu'on peut faire.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Enfin, on a plein de choses qu'on peut faire après avec le mouvement Dini. Il y a eu plusieurs des personnes qui ont participé au podcast qui, en fait, ont eu de l'aide psychologique, par exemple. Nous, on est en train de mettre ça en place pour nous de faire de l'art thérapie, voilà, dans ce cadre là aussi. Donc c'est vraiment pas, c'est pas limité à ça, et c'est vrai que c'est agréable parce que c'est pas que le podcast, quoi. On n'a pas l'impression d'être exploité pour notre parole, parce qu'il y a vraiment un donnant donnant, quoi. Je veux dire, on récupère aussi une sorte de communauté, des gens avec qui on s'entend bien, et beaucoup d'aide qu'on n'aurait pas par ailleurs. Enfin, j'aurais jamais imaginé, mais alors à des années de lumière que je pourrais débarquer au mouvement Dini un jour en disant « Bonjour, en fait, j'ai un vrai problème là, j'ai besoin d'aide », et qu'on me dirait « Oui, ok, d'accord, viens, on va trouver une solution ». Jamais. Quand j'étais en situation de prostitution, c'était même pas... D'abord, j'aurais même pas utilisé ce mot à l'époque, et c'était pas quelque chose que j'imaginais, quoi. Ça paraissait un truc qu'il fallait cacher, que personne ne devait savoir, et puis que si quelqu'un savait, c'était la catastrophe. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de détruire aussi. C'est l'idée que si les gens le savent, en fait, c'est pas la fin du monde, c'est pas la catastrophe, c'est pas la fin de ta vie. Il y a d'autres choses qui peuvent se construire dessus. Et c'est vrai que c'était pas une évidence à l'époque. Mon Dieu, non. Pas du tout, du tout.
Merci beaucoup à toutes les deux et à toutes vos compagnes de lutte. Et revenez quand vous voulez dans Remue Ménage Féministe pour nous parler de ce combat qui me paraîtrait symptomatique du combat contre les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est une des violences les plus importantes à déconstruire et à lutter contre et à être solidaire avec les personnes qui en sont victimes.
Merci beaucoup, beaucoup à vous, et avec grand plaisir.
Merci.
Et donc,
merci.
On rappelle qu'on peut contacter le Mouvement Dini sur Internet, on peut s'abonner à la revue Prostitution et Société, voilà. Et on peut soutenir financièrement le mouvement, qui est un mouvement qui repose essentiellement sur ses ressources propres, même s'il y a quelques subventions par-ci, par-là.
Quand même quelques subventions, mais il y a effectivement les dons, c'est très important. Donc, le site, c'est mouvementduni.org, et vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Et du Mouvement Dini, évidemment.
Merci. Encore
bonne
merci.
Journée, merci.
Merci et bonne journée.
Angélique Joe, autrice, compositrice béninoise qui nous chantait une des nombreuses interprétations de Summertime de l'opéra Porgy and Bess, écrite par George et Ira Gershwin en 1935. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, toujours sur Remi Méninges féministe, en votre compagnie jusqu'à 14h30.
Et donc, en complément de l'interview que vous venez d'entendre autour des survivants de la prostitution, je vous partage maintenant un communiqué du groupe Zéro Macho, qui a été diffusé notamment par 50-50 Magazine. Depuis plus de 4 ans, les responsables de Zéro Macho travaillent à attirer l'attention de la population et des pouvoirs publics sur le sujet des salons de massage asiatiques de Paris, qui sont en fait des lieux de prostitution. Leur dernier décompte arrive à 425 salons, rien qu'à Paris. C'est un nombre qui augmente régulièrement. Après des années de travail, à prendre des rendez-vous avec des personnes qui ont le pouvoir d'intervenir, à mener des actions pédagogiques auprès du grand public, en coopération avec la Fédération française des massages bien-être, voilà une grande nouvelle que Remi Méninges féministe, nous prenons quand même avec un peu des pincettes, parce qu'il faudra voir si cette déclaration va être suivie d'actes. Madame Aurore Berger, ministre de l'égalité femmes-hommes, exprime sa volonté dans le journal Le Parisien le 1er mars 2025. Il faut que ces lieux soient tous fermés. Elle annonce le nombre de 425, qui est le nombre de Zéro Macho. Elle va lancer une circulaire interministérielle avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour une application immédiate donnant à la police, à la gendarmerie et au comité opérationnel départemental antifraude l'instruction de contrôler, d'agir, de fermer ces salons. Elle déclare que c'est une priorité du gouvernement et qu'il n'y aura aucune tolérance. Quant aux femmes qui travaillent dans ces salons, elles seront, au terme de la loi de 2016, considérées comme des victimes et donc aidées et soutenues. Les réseaux proxénètes seront poursuivis et les clients verbalisés. Je rappelle que la loi prévoit une amende de 1 500 € par acte de prostitution et de 3 750 en cas de récidive. De nombreux médias nationaux et régionaux ont repris l'essentiel de ces informations. Des millions de personnes ont ainsi été informées de ce scandale. Des milliers de Chinoises et de Thaïlandaises, sans doute victimes de la traite des êtres humains, sont mises à la disposition d'hommes en France qui se rendent dans ces salons en toute impunité. Nous restons vigilants quant à la mise en œuvre des mesures annoncées, mais nous saluons avec plaisir cette affirmation. C'est donc à suivre. Ensemble, travaillons à un monde de justice et d'égalité. Dans ce monde, il n'y aura pas de prostitution. Et pour montrer qu'il ne faut jamais se décourager, hier 21 avril 2025, ça fait 81 ans qu'officiellement les femmes ont obtenu le droit de vote en France. Donc, même si ça paraît évident pour beaucoup de monde aujourd'hui, rappelons que ça a été l'objet d'une lutte de nombreuses années. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y a deux rassemblements, un à Vannes et l'autre à Paris devant l'Ordre national des médecins, pour se mobiliser dans le cadre du procès du pédocriminel Le Squarnex, ce médecin qui a fait plus de 300 victimes d'agressions sexuelles, de viols, et qui a été couvert par toutes les hiérarchies administratives, hospitalières, médicales, ministre de la Santé, etc. Il est temps que la honte change de camp et que les agresseurs soient poursuivis. Autre information dans un autre domaine. Du 1er au 14 mai, l'autrice Mélissa Blay sera en Suisse et en France. Elle sera à la librairie Fahrenheit 451 à Genève, les Médusales à Lausanne, le Rideau Rouge à Paris et la Nuit des Temps à Rennes pour présenter son livre « L'attentat antiféministe de Polytechnique, une mémoire collective en transformation ». Je vous rappelle que cet attentat antiféministe a été commis par un homme qui a fait sortir les garçons de la salle de cours et qui a tué les femmes présentes, 14 me semble-t-il. On rend hommage à leur mémoire chaque 6 décembre sur la place du Québec à Paris, mais aussi bien sûr au Canada. Enfin, une autre nouvelle qui est l'objet d'un débat juridique, c'est la définition légale de ce qu'est une femme. Le litige a débuté en 2018, lorsque le Parlement écossais a adopté un projet de loi visant à garantir l'équilibre entre les sexes dans les conseils d'administration du secteur public. Ce Parlement soutenait que les femmes transgenres, titulaires ou non, du certificat de reconnaissance de genre et droit aux protections assurées par la loi sur l'égalité hommes-femmes, tandis que l'association For Women Scotland soutient qu'elle ne s'applique qu'aux personnes, la loi sur l'égalité ne s'applique qu'aux personnes nées de sexe féminin. Le verdict vient donc de tomber et la décision unanime de la Cour est que dans les termes femme et sexe dans la loi sur l'égalité, cela fait référence à une femme biologique et à un sexe biologique. Ce que dit l'association aussi, c'est que le sexe est un état biologique immuable. C'est tout le débat donc sur la question du sexe et du genre qui est en jeu dans ce jugement. Il y aura d'autres nouvelles à venir. Et maintenant, un communiqué de la CIAMS, la Coordination internationale pour l'abolition de la maternité de substitution.
Communiqué du 3 avril 2025, il est temps de mettre un terme aux travaux opaques et pernicieux de la conférence de La Haye au service du marché de la gestation pour autrui. Du 7 au 10 avril, la conférence de La Haye du droit international privé HCCH a réuni son groupe de travail sur le projet Filiation gestation pour autrui. Son objectif réel, élaborer une convention internationale visant à garantir le bon fonctionnement du marché mondial de la maternité de substitution. La CIAMS, Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, dénonce une fois de plus la démarche de cette institution forte de ses 92 États membres. Nous estimons que le fait de garantir les effets des contrats internationaux de GPA revient à accepter et légitimer la vente d'enfants et la marchandisation des capacités reproductives des femmes, parfois au prix de leur vie. Nous dénonçons un processus législatif organisé intégralement au mépris des droits humains, des femmes et des enfants. La SIAMS rappelle en 5 points que ce projet s'appuie sur des représentations patriarcales rétrogrades et misogynes. Le rapport préliminaire de 2014 prétend que des cas de maternité de substitution seraient mentionnés dans la Bible. Féministes, nous récusons cette affirmation non seulement mensongère, mais dangereuse. Il est inacceptable au XXIe siècle de vouloir asseoir une convention internationale sur une pratique s'inscrivant dans la continuité du viol d'esclaves et de grossesses forcées. 2. La HCCH a consulté exclusivement des acteurs ayant des intérêts professionnels et économiques explicites, avocats, agences de GPA, cliniques de fertilité et des personnes commanditaires. 3. Jamais aucune organisation représentant les droits des femmes n'a été consultée et les notes envoyées spontanément n'ont jamais été prises en considération. Les risques pour la santé, la vie et les droits des femmes sont cyniquement absents des travaux qui visent à réglementer des grossesses sous contrat. 4. Jamais la parole des personnes nées de dons n'a été recherchée ou prise en considération. 5. Le processus de négociation et d'élaboration de ce projet est très opaque et non démocratique. Si la HCCH affirme qu'elle n'entend ni approuver ni désapprouver la maternité de substitution, force est de constater qu'elle ne s'appuie que sur les perspectives et intérêts de ceux qui tirent profit de cette pratique et ignorent délibérément les femmes et les enfants qui en font les frais. Par ailleurs, un des conseillers de la HCCH présent sur ce projet depuis le début est un avocat dont le cabinet accompagne des clients de GPA. Bonjour la neutralité. C'est ma parenthèse. Si la HCCH affirme ne chercher qu'à garantir les effets des contrats de maternité de substitution transfrontière, sans chercher à prendre position, cela revient à considérer les contrats en question comme licites alors qu'il s'agit de ventes d'enfants. Cette partialité est inacceptable. La SIAM se dénonce le refus de la HCCH, Conférence de la Haye des droits internationaux privés, de considérer la maternité de substitution pour ce qu'elle est, en tant que pratique sociale génératrice d'un marché mondialisé relevant de l'exploitation reproductive des femmes et de la vente d'enfants. Nous dénonçons également le piétinement des législations nationales, dont nombreuses sont celles qui interdisent la GPA au nom de la dignité humaine, dans le seul but d'avancer une supposée unification des règles de droit international privé. Nous demandons l'arrêt de ces travaux, travaux qui n'ont jamais été demandés par les mouvements pour les droits des femmes, ni par ceux pour les droits des personnes nées de dons, mais pour les seuls profiteurs du marché ultralibéral néopatriarcal de vente de nouveau-nés. L'harmonisation des règles de droit international privé ne doit pas se faire au prix de la dignité humaine, mais pour garantir le respect des droits humains de tous et de toutes. Communiqué signé par la SIAMS, contact presse abolition.surrogacy@gmail.com, le site abolition-ms.org.
Le 14 mai prochain, l'association Oser le féminisme organise un temps fort de solidarité féministe et décoloniale autour des luttes des femmes mapuche. Elles accueilleront Waco, militante activiste mapuche, pour un éclairage puissant sur l'histoire et les résistances des femmes mapuche, ces guerrières autochtones du Chili et de l'Argentine. Depuis la colonisation jusqu'aux formes contemporaines de domination, Waco partagera les multiples fronts où les femmes mapuche mènent un combat résolu, alliant défense des territoires, des cultures et des droits des femmes. Ce sera l'occasion donc de souligner l'importance d'une résistance féministe intersectionnelle et décoloniale et de la solidarité internationale féministe que nous pratiquons le plus possible. Ça se passe à la Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard à Paris, le mercredi 14 mai à 19h. Autre rendez-vous, les 13, 14 et 15 juin à Marseille, ce sera l'étape européenne de la 6e action internationale de la Marche mondiale des femmes. Cette marche mondiale existe depuis l'année 2000 et tous les 5 ans, les féministes du monde entier unissent leurs forces pour marcher ensemble avec l'objectif commun de construire un monde basé sur la paix, la justice, l'égalité, la liberté et la solidarité. C'est la coordination Marche mondiale des femmes de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accueille cette rencontre nationale les 13, 14 et 15 juin. Si vous voulez vous inscrire ou obtenir des renseignements, il y a un mail, cmmf13paca@gmail.com. cmmf13paca@gmail.com. Le programme propose 4 thèmes. Le 13 mai à 14h, une table ronde « Femmes migrantes et politiques d'extrême droite en Europe et dans le monde ». Le 14 à 9h, « Paix et démilitarisation, les violences faites aux femmes, de l'espace privé aux zones de guerre, que proposent les féministes contre les guerres et les conflits armés ». Le 14, deuxième table ronde à 13h30, « Écoféminisme, autonomie et souveraineté alimentaire, que proposent les féministes ». Le 14 à 15h30, la table ronde sera consacrée à la Charte européenne pour les droits des femmes, aux montées des extrêmes droites en Europe et leurs conséquences sur la vie des femmes. À 18h30, une manifestation sera organisée et le dimanche 15 juin, un pique-nique dans le quartier du Prado pour chanter, manger ensemble, passer un bon moment. Vous pouvez soutenir en envoyant un don à coordination de la Marche mondiale des femmes 13 PACA chez Festhauer Elisabeth, 31 chemin des Alphonses, 13710 Fuveau. Vous pouvez vous inscrire cmmf13paca@gmail.com. Une rencontre qui va s'avérer très riche, même si on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'actions militantes locales tout au long de l'année. Peut-être que ça va déclencher d'autres actions pour l'automne. On verra bien. Je passe maintenant à la rubrique dans la médiathèque de remue-ménage féministe. On trouve Bourakan, comment gagner une grève féministe. C'est un livre reprenant l'expérience des camarades du syndicat basque ELA à propos de la construction d'une grève féministe. En effet, au Pays Basque Sud, ce syndicat a su se donner les moyens de remporter de nombreuses victoires face au patronat par son refus du dialogue social, sa caisse de grève permanente. Que ce soit avec les avancées obtenues dans la longue lutte des maisons de retraite de Biscaye, qui a vu 378 jours de grève, ou dans la bataille pour supprimer l'écart salarial entre le nettoyage des bureaux, essentiellement féminin, et le nettoyage des rues, essentiellement masculin, on peut dire que la méthode du syndicat ELA a porté ses fruits. Des milliers de travailleuses engagées dans ces conflits y ont gagné des augmentations de salaire spectaculaires, de bien meilleures conditions de travail et bien souvent une prise de conscience féministe. Dans ce livre, les grévistes racontent la dignité qu'elles ont conquise par l'organisation collective et Oninza Urureta Askun, journaliste, et Ayala Elorieta Adjir, économiste, donnent des clés pour comprendre ces luttes victorieuses au Pays Basque à destination de toutes les syndicalistes et de toutes les féministes qui voudraient s'en inspirer. Bourakan, comment gagner une grève féministe. Et puis je vous propose maintenant quelques rendez-vous culturels, notamment l'exposition de Marie-Hélène Leny, notre compagne de l'émission, qui sera là dans les studios la semaine prochaine. Elle fait en ce moment une exposition de son travail Google Crypt, et ça se passe jusqu'au 26 mai, les vendredis et les samedis de 14h30 à 19h. Ça sera fermé les 2 et 3 mai. Ça se passe à Nuages Verts, rue de Bagnolet, dans le 20e arrondissement. Jusqu'au 22 juin à Angers, à la Bibliothèque universitaire de Belle-Baye, les archives du féminisme vous proposent une exposition « Les L sont dans la rue, révolte, subversion, émancipation ». plus de 300 œuvres de documents divers, cette exposition couvre une histoire vaste de la Révolution française à nos jours. Imaginée par l'Université d'Angers et la FEMUS, l'Association pour un musée des féminismes, cette exposition d'ampleur a été réalisée sous le commissariat de Ludivine Bontigny, qui est historienne. Et puis, trois autres expositions maintenant d'artistes plus ou moins connus. Artemisia Gentileschi, c'est une figure majeure de l'art baroque et du mouvement caravagèque. À travers des chefs-d'œuvre incontournables et des peintures rarement exposées à Paris, allez découvrir cette grande artiste italienne du XVIIe siècle. C'est l'une des rares femmes peintres de l'histoire à avoir connu le succès de son vivant, ce qui lui a permis de vivre de sa peinture et d'être indépendante. Sa maîtrise du clair-obscur et ses cadrages dramatiques lui permettent de saisir de façon unique la psychologie de ses personnages. Par des jeux d'opposition chromatique et un naturalisme cru, elle crée des compositions puissantes et dynamiques. Autre artiste, plus proche de nous dans l'histoire, mais décédée également, Suzanne Valadon, 1865-1938, est une artiste emblématique et audacieuse. À la marge des courants dominants de son époque, le cubisme et l'art abstrait sont en germe, alors qu'elle défend avec ardeur la nécessité de peindre le réel. Elle place le nu, féminin comme masculin, au centre de son œuvre, représentant les corps sans artifice ni voyeurisme. Elle est la première femme peintre à peindre des hommes nus de face. Ça ne s'était jamais fait auparavant. L'exposition se tient jusqu'au 26 mai de 11h à 21h les lundis, mercredis, vendredis, samedi au centre Pompidou à Paris. Et dimanche et le jeudi, c'est ouvert jusqu'à 23h. Autre artiste encore plus oublié, Gabriela Munter. C'est le musée d'art moderne de Paris qui présente sa première rétrospective. Cofondatrice du Cavalier Bleu à Munich, avec notamment Kandinsky, elle compte parmi les femmes artistes les plus éminentes de l'expressionnisme allemand. Son nom reste trop souvent associé à celui de Kandinsky qui fut son compagnon. Mais Gabriela Munter n'a jamais cessé de se renouveler avec une étonnante modernité, maîtrisant une grande nombre de techniques et laissant une œuvre foisonnante. À travers une sélection d'environ 170 œuvres avec différentes techniques, peinture, gravure, photographie, broderie, cette exposition inédite en France a pour ambition de proposer un parcours chronologique détaillé de l'œuvre de Gabriela Munter, représentant plus de 60 années de son œuvre et l'importance que cette œuvre a pour l'histoire de l'art du XXe siècle. Ça se passe au Musée d'art moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement, c'est le métro Trocadéro. C'est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Il y a une nocturne jusqu'à 21h30 le jeudi. Voilà, pour aujourd'hui, Romy Ménage Féministe vous dit au revoir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et j'ai
avec
perdu le papier.
Pour une émission concernant les méfaits de l'addiction aux écrans.
Avec Sabine Duflo pour son livre « Il ne décroche pas des écrans, comment protéger nos enfants et nos adolescentes ?» Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir Catherine.
Au revoir Elisabeth. Et bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt.
À bientôt.
L'une de l'autre ignorée, on s'est connue, on s'est regardée. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter. Nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elles il ne reste presque rien. Hé hé ha, hé 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 ha. Hé hé ha, hé 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 ha. Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagère, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire.
Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idéaux pollués. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas des gouines, tout ce qui nous ferait rêver gamine, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble, des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Si on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Allez, on ose, il est grand temps.